Acte 2. L'émission d'entrevue de l'association du passage à l'acte.
Le rêve du dragon, la méthode de gestion de projet pensée pour les changements sociétaux vers un monde sans pétrole. La dernière fois, on avait passé pas mal de temps à parler du rêve avec Yvan Chalène-Berger. Le rêve, la première étape du rêve du dragon. Yvan Chalène-Berger, médiateur, facilitateur de la méthode, dans les groupes d'intention positive, semble-t-il. Et aujourd'hui, on le retrouve pour la suite, et on va commencer pas plus tard que maintenant sur la planification. Yvan, bonjour.
Bonjour.
Donc la planification qui est la deuxième étape du rêve du dragon, c'est ça ?
Exactement.
Ok, qui est plus dirigée vers comment on va faire la chose ?
Alors la phase du plan, c'est une étape où justement on va beaucoup plus peser le pour et le contre des choses. Autant dans l'étape du rêve, on s'y intéresse pas du tout. On est des aspects théoriques où tout est permis. Dans l'étape du plan, on est aussi dans des aspects théoriques parce qu'on n'a toujours pas mis notre projet en œuvre. Mais on le confronte à l'environnement, on teste, on va voir les opposants actifs pour voir qu'est-ce qu'ils pensent de ce projet, on le présente à différentes personnes et on monte une stratégie. Donc on pèse, on choisit parmi des alternatives, on se monte une stratégie, on teste notre stratégie, on voit s'il y a des failles, on la corrige et voilà, jusqu'à ce qu'on sente que c'est bien chaud et qu'on puisse passer à l'action.
Ouais, pour beaucoup de gens, ce serait la première étape de la gestion de projet, quoi. C'est faire le business plan, faire ce genre de truc, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se connecter à notre intention avant, et toute l'étape du rêve, c'est ça, c'est un peu le pourquoi du projet, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et dans le rêve du dragon, on prend beaucoup d'importance à se connecter d'abord et d'être très au clair sur nos intentions avant de passer à l'étape du plan.
Donc c'est reparti, on est toujours sur les outils du rêve du dragon. La planification, il y a plein d'outils qui existent dans tout un tas de méthodes diverses et variées pour gérer les projets. En rêve du dragon, qu'est-ce qui existe ?
Alors, comme pour pas mal des outils qu'on trouve dans le rêve du dragon, il y a des choses qui sont basées sur la culture arborigène. Et là, on utilise un outil qui s'appelle le Carabert.
Le Carabert. Alors attends, ça s'écrit comment ?
Ça s'écrit pas, en fait, personne ne sait.
D'accord, ok.
Mais a priori, on peut essayer avec Carabert.
Voilà. Oui, effectivement, ça s'écrit pas.
Ça ne s'écrit pas.
Okay. C'est quoi un Carabert ?
A priori, ce que ça veut dire, c'est une espèce de toile d'araignée. Ça, assez souvent, nous, dans notre manière de travailler, ça ressemble aussi un peu à un sac de nœuds. Voilà, et c'est notre plan. On est assez original dans notre manière de travailler. Mais en fait, on arrive tout à fait à travailler avec ça.
Donc là, les gens qui font de la gestion de projet en entreprise sont à peu près horrifiés. Il va falloir que tu nous expliques.
Je vais bien vous expliquer.
Ouais, alors voilà.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut finir l'étape de planification avec des outils où ceux qui font de la gestion traditionnelle vont pouvoir retrouver des outils qu'ils connaissent, comme des diagrammes de Gantt, des choses comme ça.
Ouais.
Mais nous, on l'utilise en général assez peu, en fait. C'est assez rare qu'on ait des projets qui soient assez exigeants pour avoir besoin de tels outils.
D'accord. Voilà. Donc le Carabert, c'est une espèce de toile d'araignée de planification.
Le Carabert, alors on se crée un espèce de tableau qui prend une ou deux pages de paperboard. Ces deux pages réunies, ça forme un grand rectangle. On va séparer ça depuis le haut jusqu'au bas en quatre espaces réguliers. Tout en haut, on crée une petite bulle, un petit cercle dans lequel on met le rêve du projet pour les 6 mois à venir. Et puis tout en bas du papier, on met une petite bulle qui symbolise 6 mois plus tard le projet réalisé. Et ensuite, les quatre espaces réguliers qui permettent de passer de la bulle tout en haut à la bulle tout en bas sont la première étape, le premier espace, c'est l'espace du rêve, le deuxième espace suivant qui est dessous, l'espace du plan, dessous un passage à l'action, et en dessous une étape pour la célébration. Donc ça, c'est une première dimension. On passe de la bulle tout en haut à tout en bas en passant par ces quatre étapes.
Donc là, on est dans l'étape de la planification et en même temps, on est en train de parler du rêve, de la planification, de l'action, de la célébration. C'est ça que tu appelles le côté fractal de la méthode ?
À fond, voilà. On a toujours, dans chaque étape, on trouve le rêve, le plan, l'action et la célébration. Pour imager un peu ça, on retrouve ça un petit peu dans une journée. En fait, on rêve la nuit, le matin, on se réveille... On imagine un petit peu, on fait un plan pour la journée on l'a fait, le soir on célèbre, on se dit voilà j'ai fait ça, et puis on s'endort, on repart dans un rêve, un plan, action, célébration, et ainsi de suite. Et pour montrer que c'est dans plusieurs dimensions, par exemple on peut aussi le mettre à l'échelle de sa vie, on est jeune, on est totalement dans le rêve, il n'y a aucune limite quand on est enfant, on grandit un petit peu et on est plus dans des étapes de structuration, où on essaye de classer les choses, de les structurer, tout ça, en vieillissant un peu on est vraiment purement dans l'action, de la vie. Et avec l'âge, en arrivant, en étant un peu plus vieux, plus sage, on est dans cet aspect de célébration.
Ok. Voilà. Et alors, on a donc notre rectangle en papier, avec structuré, avec quatre zones, rêve, plan, action, célébration. Notre petit rond en haut qui est, si j'ai bien compris, l'étincelle du projet. L'intention du projet, voilà. Et en bas, le petit rond qui est genre l'aboutissement, c'est ça ?
Le projet qui est venu dans la matière qu'on a réalisé.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce truc ?
Alors ensuite, on va encore travailler un petit peu sur la structuration de notre tableau. En fait, on va séparer le tableau en trois colonnes, si on veut bien. La colonne de gauche, elle est centrée sur l'énergie interne du groupe qui porte le projet. La colonne tout à droite, elle est complètement centrée sur tout ce qui est en lien avec l'environnement, ce qui est à l'extérieur du groupe. Donc le voisinage, à nouveau, la ville, et ainsi de suite. Et la colonne du centre, c'est celle qui est en lien avec les deux énergies, qui met en lien l'énergie du groupe en interne et les interactions avec l'environnement dans lequel se déploie le projet. Une fois qu'on a tracé ce tableau, on invite les participants à choisir les idées qui leur paraissent essentielles à la réalisation de ce projet. Et alors là, on a un petit calcul à faire, parce qu'en fait, pour faire ce jeu, on aimerait bien qu'à la fin, en fait, on ait entre 24 et 48 idées qui soient collées sur ce tableau. Donc à nouveau, quand je dis coller, c'est parce qu'on utilise des post-it assez souvent pour venir afficher sur ces paperboards. Et donc en fait, pour trouver le nombre de tâches que les gens vont amener, on fait un calcul tout simple, 48 divisé par le nombre de participants. Et ça donne le nombre de tâches qu'on va demander à chacun de trouver.
Alors, l'étape précédente qui était l'étape du rêve, on fait une liste des choses qu'on aimerait voir arriver dans les 6 prochains mois, parce que si j'ai bien compris... En rêve, on se place tous les 6 mois et on fait une présélection éventuellement de ces choses-là où on part vraiment tout azimut, parce que pour arriver à 48 tâches, le moindre projet dans le projet, j'en sais rien, si l'objectif c'est de monter un éco-village, le moindre projet qui est par exemple d'avoir une grande salle de pratique corporelle dans cet éco-village, ça suppose déjà en soi peut-être 12, 20, 30 tâches dans les 6 prochains mois. Est-ce qu'il y a une étape de sélection comme ça ou pas ?
Alors, on le fait un petit peu dans l'autre sens. C'est qu'on ne sélectionne pas tout de suite. Et en fait, il y a des étapes où les choses se regroupent naturellement et où ça se clarifie. En fait, dans tout le processus, dans tous les jeux, les choses s'affinent par elles-mêmes au fur et à mesure des jeux. L'intention même, le rêve initial, s'affine aussi dans l'étape de planification. Tout devient de plus en plus clair, en fait, au fur et à mesure qu'on voyage dans notre projet.
Pas de phase de sélection et on passe directement à poser des petites notes autocollantes sur nos affiches avec les tâches, 48 maximum, pour les 6 prochains mois.
Voilà, c'est ce qu'on pose comme règle du jeu à ce moment-là du Carabert.
D'accord.
On va voir qu'il y a plusieurs étapes. Donc là, les personnes, par exemple, si on est 12 personnes, ça fait 4 tâches par personne à trouver. Mmh. Donc chacun va se poser la question, quelles sont les tâches essentielles que je perçois pour que ce projet fonctionne ? Pour identifier ces tâches, on peut le faire en étant juste connecté à soi-même et à ce qu'on perçoit du projet, ou alors on peut aller piocher dans ce qui est sorti dans le cercle de rêve, dans l'analyse des champs de force qu'on avait fait déjà en amont. Et puis voilà, chacun vient, amène sa participation, sa contribution sur ce Carabert, et on va essayer de positionner ces tâches là où elles interviennent. Est-ce que c'est des tâches qui sont en lien avec l'étape du rêve, avec l'étape du plan, avec l'étape de l'action, avec l'étape de la célébration ?
Et donc, puis j'imagine aussi en fonction de l'intérieur ou de l'extérieur du groupe.
Exactement.
Okay.
Donc ça, c'est un petit peu de gymnastique au départ, parce que c'est pas toujours évident de clarifier qu'est-ce qui est de l'intention, qu'est-ce qui est de la célébration. Bah, par exemple, pour faciliter un petit peu, tout ce qui est l'étape du rêve, on est vraiment très connecté à l'intention. C'est juste imaginaire, c'est juste une intention. L'étape de planification, on est dans tout ce qui est structurel, ce qui permet d'avancer. Et l'étape d'action, on est dans les tâches concrètes qui portent le projet lui-même. Et la célébration, on l'identifie assez facilement parce que c'est le fait de constater que les choses sont faites ou pas.
D'accord, ça on reviendra après peut-être pour définir mieux ce que c'est que la célébration. Du coup, on place nos tâches dans tous ces trucs-là.
Voilà.
Et puis ensuite.
Alors une fois que chacun a amené ses contributions, à nouveau, on prend un moment pour observer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça nous dit. Alors assez typiquement. On peut se retrouver avec beaucoup de tâches en planification et beaucoup de tâches en action. Je dis que c'est assez typique parce que c'est un petit peu ce qu'on apprend en général dans nos cultures. On est beaucoup dans le plan et dans l'action, et puis peu connecté à l'intention et peu connecté au fait d'observer les résultats, de prendre le temps de voir ce qui se passe. Donc quand on voit un projet qui est comme ça, qui a beaucoup de post-it sur le plan et l'action par exemple, et ben on sait qu'a priori c'est pas évident que ce projet fonctionne. Parce qu'il manque des tâches très importantes, des tâches de clarifier l'intention et des tâches de clarifier ce qu'on va être appelé à célébrer.
Et du coup, là, on arrête le projet parce que ça peut pas marcher.
Eh bien non, on continue à jouer parce qu'on aime bien jouer. En fait, à chaque fois, il y a le jeu suivant qui permet d'avancer et de dépasser ce qui pourrait nous freiner.
Ouf.
Ouf. Donc on invite les personnes justement à identifier quelles sont les étapes du rêve qu'on n'avait pas identifiées jusque-là, les étapes de célébration qui ne sont pas identifiées. Il y a aussi dans tout ce processus des moments où on voit qu'il y a des informations, des tâches qui sont très similaires, donc là on les regroupe, on crée peut-être plus qu'un poste pour des énergies à peu près...
Équivalentes.
Équivalentes, ouais. Une fois qu'on a équilibré un petit peu ces différentes tâches, donc il y en a autant dans le rêve, autant dans le plan, autant dans l'action, autant dans la célébration, on peut passer à l'étape suivante où on s'amuse à créer des cheminements logiques. Donc le but du jeu, c'est de partir de la bulle qui est tout en haut et de rejoindre la bulle qui est tout en bas.
On relie les points, quoi. C'est comme un jeu pour les enfants ou après... Enfin...
Voilà, c'est comme si on avait des droits à tout ça, on doit relier. Le but du jeu étant de passer forcément par des étapes de rêve. Pour passer d'une étape de rêve à l'étape suivante, il faut absolument passer par l'étape de planification. Pour aller au stade suivant de l'action, il faut absolument passer par l'action.
D'accord.
Et par la célébration afin d'atteindre le point tout en bas où on est dans le rêve incarné.
Donc une ligne doit avoir au minimum 4 points, 4 nœuds sur cette ligne-là, en plus des deux initiation et réalisation.
Exactement. Des fois, elle passe par beaucoup plus de points, en fait, parce que on peut avoir 3 étapes de rêve, 3 étapes de plan, 3 étapes d'action, 3 étapes de célébration.
Ça peut faire des bifurcations ou
tout à fait, ouais,
aller du rêve au rêve ou de l'action à l'action.
Tout à fait, exactement. Mmh. Des fois, ça split pour aller vers deux choses. Des fois, il y a deux choses qui relient à une chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a jamais une tâche qui ne vient pas de quelque chose d'au-dessus et qui ne continue pas vers quelque chose dessous.
Et si quand même ça se produit, si on trouve pas?
Ah ben, en général on trouve. Ce qui se peut, c'est peut-être qu'il y a une tâche qu'on n'a pas identifiée, soit dessus, soit dessous.
Donc on rajoute encore des papiers.
On rajoute encore des papiers.
D'accord.
Alors quand on en rajoute, on essaye toujours de garder cet équilibre, d'être entre 24 et 48 tâches sur notre tableau. Donc peut-être que si on en rajoute, au bout d'un moment, on est invité à simplifier d'autres choses. À regrouper peut-être deux papiers en un seul. C'est pas fondamentalement important, mais ce qu'on essaye, c'est de veiller à un équilibre entre 24 et 48, parce qu'en dessous de 24, on trouve que c'est trop peu, au-dessus de 48, on trouve que c'est trop. Et on essaye d'équilibrer ces énergies, de trop regrouper ou de trop diviser les choses.
24, 48, c'est au hasard ou c'est juste... Parce que après, moi, j'imagine qu'effectivement, 48, je peux comprendre que ça commence à déjà faire beaucoup, parce que s'il y a, 8 personnes qui se retrouvent chacune... Enfin, parce que c'est quand même 48 tâches et des choses à faire, quoi, au final. Donc, faut être disponible, quoi, j'imagine. Bah, c'est pour dans les 6 prochains mois. Bon, ça commence à... C'est possible quand même, mais
oui, bon,
voilà, ça commence à faire beaucoup. La question, c'était 24-48, ça a été décidé comment?
Ben en fait, c'est tout simplement que si on regarde le tableau de jeu qu'on utilise, donc il y a 4 espaces de haut en bas, 3 espaces de gauche à droite, on a déjà 12 types d'énergie différentes. Donc en fait, 24, ce n'est que 2 post-it par, par endroit, et 48 que, a priori, 4 post-it dans chacun de ces espaces aussi. Donc voilà, parce qu'un des buts, c'est d'équilibrer autant le rêve, le plan, l'action que la célébration, puis aussi de veiller au fait que le projet s'occupe de son énergie à l'interne, et puis s'occupe aussi d'être en lien avec l'environnement. C'est aussi une des choses qu'on regarde, est-ce qu'il y a un équilibre, est-ce qu'il y a une interaction qui a l'air de permettre au projet de se réaliser.
Donc si je traduis, qui repose que sur les choses en interne, c'est-à-dire qu'en fait ça ne repose que sur les membres qui doivent apporter toute l'énergie, et si c'est que en externe, ça repose en fait sur, que de l'énergie qui viendrait de l'extérieur, des gens dont on attend de l'aide, des subventions, des choses comme ça.
Ça peut être des aspects de ce genre-là, effectivement. Et puis, assez souvent, par exemple, on peut avoir des projets qui ont en vocation de toucher du monde, le groupe qui participe à monter ce projet oublie des étapes, justement, d'aller solliciter les gens.
Ouais.
Donc, des aspects assez importants. Donc, ça permet d'identifier ça au passage. Oui, c'est subtil. Mais on se fait des fois piéger, on est pris dans la dynamique des projets et on s'aperçoit pas de choses comme ça. Et ce type de jeu permet de mettre ça un petit peu de manière visuelle. On voit tout de suite, est-ce qu'on a négligé l'énergie vers l'extérieur, vers l'environnement, ou est-ce qu'on néglige l'énergie à l'intérieur, de prendre soin de l'équipe, parce que c'est un des aspects importants qu'on a dans cette dynamique.
Donc à la fin, on se retrouve avec une espèce d'enchevêtrement de traits, j'imagine, parce qu'il y a 48 trucs par 4, machin. Il y a au maximum une douzaine de traits, mais dans tous les sens qui peuvent se remonter. Ça me paraît être un sac de nœuds, effectivement. Tu l'as utilisé cette expression, donc je la reprends. Ça me paraît être un sac de nœuds. C'est censé devenir quoi après ?
On verra qu'après, on peut transformer cette espèce de sac de nœuds dans quelque chose de plus visuel, qui peut parler, qu'on peut présenter à des gens. Parce que c'est vrai que sous cette forme-là, c'est pas très joli.
Là, t'as pas la subvention. Hein, si tu mets ça dans le dossier,
voilà, c'est ça. Au niveau de la com, on n'est pas bon. Ça peut servir comme outil de planification en interne. D'ailleurs, on va l'utiliser encore pour différentes étapes, pour avancer dans la planification. Mais c'est vrai qu'au niveau de la présentation, ça ne le fait pas. Après, on peut passer, donner ça à des gens qui savent un peu mettre ça en page avec des logiciels de mind mapping ou carte heuristique, des choses comme ça. Donc, ils vont un peu dénouer tout le sac de traits qui est là et puis essayer de trouver des cheminements logiques qui peuvent être prendre soin de l'énergie du groupe, s'occuper d'avoir un budget, des gens qui vont s'occuper peut-être de la communication vers l'extérieur, d'aller voir des gens, de fédérer, d'organiser les rencontres. Donc voilà, on se retrouve avec des grandes lignes qui partent chacune du rêve jusqu'à la célébration. Et ça, c'est déjà beaucoup plus présentable. On verra même que plus tard, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser pour créer un diagramme de Gantt, si on en a envie.
Un diagramme de Gantt, c'est un outil de planification un peu plus traditionnel où chaque tâche est reliée à la précédente et à la suivante, mais du point de vue strictement opérationnel, qui n'est pas ni connecté au rêve ni à la célébration. C'est vraiment un outil de planification, tout ce qui est plus conventionnel.
C'est conventionnel, on trouve ça dans tous les gestions de projets dans les grandes entreprises, quoi, la plupart du temps. C'est des diagrammes où on met les tâches les unes derrière les autres par rapport à l'ordre dans lequel elles doivent se faire. On attribue des délais, on attribue des personnes qui doivent travailler dessus, quoi, des temps de travail qui sont nécessaires, on attribue des budgets. Donc ça peut être lié aussi à des appels de fonds, à des financements, à des étapes de communication, à beaucoup de choses. Donc c'est très opérationnel, très pointu. Nous, en fait, la plupart du temps, on n'utilise pas ça.
Tu as parlé du budget et j'aimerais bien qu'on parle de la proposition du rêve du dragon pour établir un pré-budget. Parce que ça, c'est quand même pour le moins folklorique. Alors, ça s'appelle, si je me souviens bien, le budget 10 minutes. Est-ce que tu peux nous en parler ? Enfin, parce que on est à la limite de l'ésotérique.
Ouais, donc c'est vrai qu'on a une approche assez rigolote pour faire le budget. Parce qu'en général, c'est une étape qui peut être assez lourde pour beaucoup de projets, voire qu'on ne fait pas, où on laisse du flou et on fait comme on peut. Donc nous, c'est un sujet qu'on aborde et on le fait en 10 minutes. Alors, il y a un petit...
les entreprises viennent de s'étouffer.
Effectivement, ça peut faire rire. Bon, en fait, c'est pas tout à fait 10 minutes parce qu'il y a une petite étape de préparation. Donc, on demande à une ou deux personnes de retranscrire toutes les tâches qu'on avait sur notre Carabert. Donc, entre 24 et 48 tâches, a priori. Donc, ça peut les occuper 10 minutes, un quart d'heure, comme ça. On écrit toutes ces tâches sur des lignes, sur des grandes feuilles de paperboard. Et en face de ces lignes, on trace deux colonnes. Et au début, on ne dit pas à quoi ça sert. Ensuite, une fois que c'est fait, on présente au groupe les règles du jeu. Donc les règles du jeu sont assez simples. C'est qu'on va faire une improvisation musicale.
Voilà, c'est ça.
Voilà, on est en plein dedans.
Donc les outils indispensables pour ça sont un didgeridoo, un djembé...
Voilà, ou les voix, les cordes, on peut faire tout à fait en vocalise et puis en percussion corporelle, utiliser des tables, des chaises.
Voilà, c'est un budget donc.
Voilà. Donc, juste avant de commencer l'improvisation, on met en face des deux colonnes, on met une colonne qui va représenter le budget de temps, donc le temps nécessaire pour cette tâche. Et dans la deuxième colonne, le budget argent, l'argent nécessaire à réaliser cette tâche. On invite chaque personne, quand on sera dans l'improvisation, dans la musique, dans le morceau qu'on va créer ensemble, à regarder ses lignes, et puis et à rester dans l'improvisation. Puis dès qu'on sent qu'on est inspiré par une des tâches, qu'on a une idée, qu'on a une évaluation comme ça, qui nous vient pour le temps que ça pourrait prendre et le budget que ça pourrait nécessiter, eh bien on y va, on prend un crayon, et puis on inscrit la durée qu'on estime pour cette tâche, et le budget qu'on estime pour cette même tâche, et on revient dans l'improvisation, on laisse passer quelqu'un d'autre. Donc il n'y a tout le temps qu'une seule personne qui est en train d'écrire sur notre budget en même temps. Et puis tout le reste du groupe soutient derrière avec une improvisation énergique si possible. On essaye que chacun se motive à s'amuser et qu'on rigole bien. Et la dernière fois qu'on l'a fait, on l'a fait en 6 minutes 30. Et on avait un budget complet. Alors voilà, je sais que ça fait rire.
Correct. Correct.
Bah, c'est là où c'est rigolo, c'est qu'en fait, à l'expérience, dans nos projets, on s'aperçoit que c'est tout aussi faux qu'un autre budget. En fait, les budgets fonctionnent rarement directement. Il y a toujours des surprises, même au niveau du temps. Donc ça donne une estimation qui est largement exploitable pour faire avancer notre projet. Et puis rien ne nous empêche, après, de peaufiner s'il y a besoin, de réétudier, de donner ça à des gens qui sont beaucoup plus précis dans la planification. Mais en tout cas, ça donne les bases d'un budget qui sont très intéressantes.
D'accord. Comme ça, juste en saturant le conscient des gens, ça permet de sortir des trucs qui sont à la louche corrects, juste en faisant confiance à la part de nous qui calcule en permanence et puis qui est capable de faire le truc.
Alors, on ne sait pas forcément à quelle règle ça répond pour que ça fonctionne, ouais. Mais entre les erreurs des uns qui grossissent certaines tâches et puis et l'inverse pour d'autres, ça tend à un équilibre qui a l'air de fonctionner.
Ouais. C'est joli, c'est chouette, non mais parce que pour avoir vu des assos et des groupes passer des heures et des heures sur un budget prévisionnel, et puis c'est vraiment là, pour le coup, ça c'est une patate chaude que personne n'a envie de récupérer, de voir faire le budget, là ça devient très festif.
Effectivement, ouais, ça transforme une étape qui est parfois lourde en étape festive, voilà, ça fait partie de cette envie de transformer les choses en jeu, de jouer la vie.
De jouer la vie. Est-ce qu'on parle de l'action ? L'action, quand on parle de l'action, j'ai l'impression que c'est propre à chaque projet. Est-ce qu'il y a des outils particuliers de l'action qui sont proposés par le Rêve du Dragon, ou est-ce qu'on passe directement à la célébration ?
Ben, forcément qu'on passe par l'action, sinon le projet ne s'incarne pas dans la matière. L'action, c'est quand même le moment où on réalise les choses.
Oui, c'est vrai, c'est logique. Ma question était à côté de la plaque. Merci, très bien. Bon, eh bien, alors on passe par l'action. Et comment on passe par l'action ?
Pour passer à l'action, déjà, on attend de valider que notre plan est bon et puis que toute l'équipe adhère à ce plan. Et donc on a des phases où on fait valider, on implique les personnes à s'engager dans ce projet sur des aspects financiers. Donc c'est un sujet qui est au-delà du budget, qui est des fois assez inconfortable. Mais en fait, on fait une levée de fonds déjà directement dans le projet. On sait combien il coûterait ce projet sur 6 mois, et puis on demande ce que chacun serait prêt à mettre dans ce projet sur les 6 prochains mois. On a un petit processus pour faire ça, qui est assez rapide.
Et c'est quoi ce truc-là? Parce que, là, parce que du coup, on est passé du budget à demander des sous aux gens, c'est ça, grosso modo, c'est ça, c'est la première action, c'est ça? Non, je sais pas. Comment on fait?
Alors non, on est encore dans l'étape du plan à ce moment-là. Comment on fait? Ben, c'est assez simple, en fait, on réunit le groupe, et puis on demande à chacun combien il serait prêt à mettre durant les 6 prochains mois, combien d'argent il serait prêt à mettre dans les 6 prochains mois pour que ce projet se réalise.
Une petite somme par
alors,
mois.
Alors certains vont pouvoir peut-être mettre tout de suite, d'autres tout à la fin, d'autres tous les mois. Donc ça c'est très libre à cette étape-là à nouveau. Mais par contre on essaye d'avoir une intention de savoir qu'est-ce qu'on peut déjà fournir en interne au niveau du budget. Et on invite les gens à se connecter un petit peu à leur équilibre financier personnel, à regarder quel est l'argent qui rentre dans leur vie, l'argent qui sort, et à trouver un point d'équilibre pour s'investir assez, pour mettre assez par rapport à ce qui est à leur revenu et à leur niveau de vie, et sans tomber dans le sacrifice. Donc ça, c'est très important aussi pour nous.
D'accord, sans que ce soit de la radinerie, mais sans non plus que ça empêche de manger.
Pas de radinerie, pas de sacrifice.
Ok, d'accord.
Voilà. Et ça, c'est chacun qui évalue lui-même son point d'équilibre. On fait ça dans un cercle public. En fait, chacun écrit sur un post-it la somme qu'il est prêt à mettre dans le projet pour les 6 prochains mois. Mais on les collecte en toute discrétion et le facilitateur de cet atelier annonce juste la somme globale qu'on peut mettre en comparaison du budget. La dernière fois qu'on l'a fait, en fait, on s'apercevait que potentiellement on levait les budgets sans aucun problème. Donc bon, c'était des projets qui étaient peut-être pas trop conséquents aussi, donc des fois c'est pas le cas.
Ça règle la question de l'argent, dit comme ça. Mais la question de l'argent dans le Rêve du Dragon, elle est abordée de quelle manière? Parce que là, ce que tu es en train de me dire, j'imagine que ça peut faire bondir un certain nombre de personnes de devoir. C'est quelque part, c'est une forme d'engagement, de se dire tiens, je vais mettre 20 euros par mois, etc. Enfin, c'est un truc. On touche en plus à. Enfin, la question de l'argent, c'est pas une chose très simple par chez nous.
Ouais, effectivement, nous on parle de l'argent, on parle de la blessure de l'argent, en fait, une espèce de blessure qu'on a un petit peu chacun en nous, qui est liée à la manière dont l'argent est utilisé dans nos sociétés, alors que l'argent peut être quelque chose de très fonctionnel, qui permet de régler des échanges. C'est malheureusement dans nos sociétés, on associe ça à la richesse, à la pauvreté, à beaucoup d'énergies complexes avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Donc nous, on essaie d'utiliser différents types de processus qui permettent d'apaiser ce sujet et de le rendre beaucoup plus rigolo, comme le budget 10 minutes, comme la levée de fonds en fonction de son propre équilibre financier.
D'accord. Voilà. Et si on n'arrive pas, par exemple, à recueillir le budget, voilà, je suis dans une logique de manque, je te pose la question du mec qui manque. On n'arrive pas à recueillir le budget, ou genre on a une dépense imprévue de budget alors que finalement c'était pas.
Bah alors, il y a plusieurs pistes. Il y a le fait que peut-être qu'on peut demander à des personnes de rejoindre le projet et puis du coup étendre aussi le financement qu'a ce projet. On peut peut-être réfléchir au fait qu'on a organisé, on a planifié des dépenses dont on pourrait peut-être qu'on pourrait ne pas faire. Mais au-delà de ça, en fait, on a une étape justement où quand on implique les gens à faire la levée de fonds en interne, on essaye aussi de savoir faire une différence entre les personnes qui vont participer au projet et celles qui s'engagent. Donc les personnes qui participent en général mettent soit du temps, soit de l'argent dans le projet, soit les deux. Mais les personnes qui s'engagent, c'est un niveau un petit peu différent, en fait, pour que le projet, pour qu'on aille plus loin dans le projet, qu'on dépasse l'étape du plan, on a besoin d'avoir 4 personnes qui s'engagent à couvrir d'éventuelles pertes. Quoi, si le projet engage des frais et qu'en fait les sommes ne sont pas levées, il y a des personnes qui s'engagent à régler ces factures-là.
D'accord, donc en fait il y a deux niveaux, on va dire, d'implication. Il y a les gens qui participent parce qu'ils mettent un petit peu de sous, ou un petit peu de temps, ou les deux, chaque mois ou en fonction de leurs besoins. Et puis il y a des engagés, des gens qui s'engagent, qui sont un peu comme la bouée de sauvetage, le parachute éventuel du projet.
C'est ça. Ils se portent garant de l'aspect financier du projet.
Mais donc je peux faire n'importe quoi, de toute façon j'ai un parachute, c'est ça?
Alors c'est un petit peu l'idée qu'on pourrait en avoir, sauf que les personnes qui sont engagées, elles ont un droit de regard particulier sur tout ce qui a trait au budget de fonctionnement de ce projet.
D'accord.
Donc normalement, ils se dotent eux-mêmes d'un certain nombre de règles en interne qui vont permettre que le projet fonctionne.
D'accord.
Et ça fonctionne bien.
D'accord. Okay. Il n'y a pas plus de précision sur ce qui est de l'ordre du droit de l'engager par rapport aux participants.
Non, on part tout simplement sur un droit de regard supérieur et après en fait ça se définit dans chaque projet de manière différente. Il y a pas mal de projets où le problème de l'argent ne se pose pas parce qu'en fait on lève assez de fonds pour réaliser le projet, donc en fait il n'y a pas trop d'inquiétude sur ce côté-là et puis on reste facilement assez raisonnable en se connectant aux besoins.
Donc souvent il y a des peurs mais qu'elles ne sont pas forcément justifiées sur les aspects financiers.
Absolument, c'est vraiment la blessure de l'argent qu'on a en nous. Il y a des livres intéressants sur le sujet, j'ai plus les noms des auteurs comme ça, mais on peut trouver ça.
Ok. On va dire que là, c'était la manière de financer l'action, ou bien c'est encore la planification ou...
Là, on a encore différents outils qu'on utilise dans la planification pour essayer d'impliquer les gens sur les différentes tâches, parce que ça nous paraît important. Mais sinon, une fois qu'on a fait, qu'on a trouvé comment s'impliquent les gens, quoi, qui s'implique pour faire quoi, qu'on a un budget, qu'on a fait une levée de fonds et qu'on a des personnes qui sont engagées, on peut dire déjà qu'on a une stratégie, qu'on a un plan. Qui donne envie au groupe de passer à l'action. On sait que ça pose déjà des bases pérennes, et puis rien n'empêche de venir peaufiner et réinterroger ce plan plus tard, mais au moins on a cette base qui va nous permettre d'avancer sur de bonnes fondations.
Alors du coup, est-ce que dans cette émission, aujourd'hui, nous passons à l'action, ou bien est-ce que nous passons à la célébration?
Ben on peut passer à l'action parce que c'est assez rapide comme ça d'en parler.
Okay,
parce que l'action, il faut y aller. À un moment, si dans le projet on veut faire des incroyables comestibles et planter, quoi, mettre des plantes, il faut aller dans les magasins, chercher des plantes, utiliser la pelle, transpirer, regarder si la météo est bonne. Réunir les personnes sur le terrain, et ainsi de suite. Donc on est vraiment dans une étape où on met en œuvre, on gère, on administre un petit peu l'action, et puis on évalue les progrès, on adapte au fur et à mesure en fonction des contraintes qui apparaissent, terre trop sèche, et ainsi de suite. Donc là, on a un petit peu moins d'outillage, on a quelques idées de processus qui peuvent soutenir cette étape-là. Mais c'est presque des processus qu'on peut retrouver de manière transversale.
Tu as des noms ou des idées?
Oui, bah par exemple, quand on a besoin de faire des réunions, on utilise souvent de la communication non violente. On peut choisir de faire appel à un facilitateur, utiliser des bâtons de parole, des cercles de parole. Une chose qui est importante dans l'étape d'action, pour nous, par exemple, c'est de garder en vue la mission du projet. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance et qu'on est confronté à des complications ou à des choses qu'on doit modifier, d'essayer de se rappeler systématiquement quel est le projet et pourquoi on le fait. Voilà, parce que des fois on s'égare, en fait, on est pris on est le nez dans le guidon. Et puis on se perd un petit peu, donc c'est des moments pour se recentrer un petit peu là-dessus. Et puis on a une espèce de checklist dans le rêve du dragon, parce que le rêve du dragon c'est 4 étapes, mais vu que c'est fractal, en fait on peut le décliner en 12 sous-étapes, et on peut vérifier...
Ah non, 4 x 4 ça fait 16, là c'est bon, c'est moi qui l'ai.
Tac, joli.
Un point pour moi.
Bon bah c'est moi qui vais rentrer, alors je vais laisser faire la présentation à quelqu'un d'autre.
Non, reste.
Oui, effectivement. Bon. C'est-à-dire que... l'étape de célébration, c'est une étape qui est beaucoup dans le feedback, dans une étape de retour, de reconnexion. Et du coup, quand on décline 4 étapes dans les 4 étapes, on décrit surtout les trois premières, et la quatrième, c'est le côté de réinterrogation, de reconnexion à l'intention initiale de cette étape.
Alors, célébrons. On célèbre. Ouais. Est-ce qu'on reste connecté à la mission ou... Passons à la célébration.
Ok, célébration.
Célébration. Célébration, moi, quand tu me parles de célébration, j'entends faire la fête. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est faire la fête? On danse et on est trop content d'avoir fait des choses? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses là-dedans?
Bah oui et non. Oui, on danse parce que danser c'est la fête, ça fait du bien, ça remonte l'énergie un petit peu de tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a ce besoin de prendre le temps de ne plus être dans le faire et de pouvoir profiter d'avoir fait ensemble avant. Mmh. Mais des fois, il y a une confusion justement de regarder que cet aspect festif, alors qu'en fait, il y a une dimension qui est très importante pour nous. C'est une dimension de prendre conscience, de reconnaître, de voir ce qui s'est passé, soit en moi, soit dans les autres. Par exemple, est-ce que j'ai appris des choses pendant que j'ai fait ce projet avec ces personnes? Est-ce qu'il y a des moments, j'ai pu vivre des moments super intenses avec les uns les autres et avec qui? Essayer de prendre conscience de ça, puis de le communiquer, de partager sur ces choses-là. Donc voilà, ça peut être de la gratitude, du feedback, de la reconnaissance, de la reconnexion, de l'intégration, conscientisation.
Quelle forme ça peut prendre? C'est des dessins, c'est... On prend des photos tout le long et on se fait une soirée diapo, c'est quoi?
Ouais, effectivement, ça peut être des choses comme ça. Nous, on utilise, on a un outil qu'on aime bien utiliser pour vraiment clôturer un projet. C'est un petit jeu qui s'appelle le cercle de dons. Mais après, chacun est créatif sur sa manière d'amener de la célébration dans des projets. Je sais qu'on retrouve cette notion dans le livre de Frédéric Laloux sur les entreprises libérées.
Qui s'appelle Reinventing Organization.
Voilà. Une approche qui est assez similaire à ce qu'on retrouve dans le rêve du dragon. Et on s'aperçoit que les entreprises qui fonctionnent bien ont intégré ces aspects de célébration. Par exemple, il y a une école qui est montée sur ce type d'organisation où toutes les semaines, en fin de semaine, les professeurs et les élèves passent devant tout le monde et vont célébrer une personne, quelque chose qui s'est passé de génial dans l'école. Alors ils vont célébrer une fois un ami, un collègue, peut-être quelqu'un d'extérieur, un fait divers sociétal, un professeur, un heureux événement et tout ça. Et voilà, et chacun passe comme ça les uns devant les autres. Et ça crée une énergie incroyable et puis une reconnexion de personne à personne. On est loin de l'ego à nouveau, on est dans une certaine de la profondeur.
Tu as parlé du cercle de dons, tu as dit que c'est un outil que tu utilisais, c'est quoi?
C'est un jeu, en fait, on invite chacun à se trouver une position. Donc on peut faire ça soit dans une grande salle ou dans un espace en plein air. L'idée, c'est que chacun trouve une place où il est assez loin des autres pour créer une espèce d'intimité, qu'il ait une bulle d'intimité. Et puis chaque participant choisit un petit objet totem. Et cet objet totem, s'il le tient dans ses mains, ça veut dire qu'il n'est pas disponible. Donc on le laisse tranquille et s'il le pose devant lui, ça veut dire qu'il est disponible. Donc chacun trouve un petit peu sa place et puis on peut se déplacer, on peut quitter sa place pour aller voir les autres. Quand on va voir quelqu'un, on peut lui dire ce qu'on a envie, de bien, de pas bien. On invite à utiliser la communication non violente parce qu'on peut dire des choses qui sont désagréables, mais en communication non violente, c'est très différent qu'une manière vulgaire. Donc dans le cercle de dons, on peut dire des choses autant positives que négatives, c'est pas un souci. Et la personne qui vient faire le don est la seule à parler, et la personne qui était réceptive ne peut faire qu'écouter et ne doit rien dire. Juste, elle peut acquiescer, faire des petits trucs, mais il n'y a pas de communication, c'est pas un échange verbal, c'est vraiment un cadeau. Voilà. Et du coup, les participants vont voir les personnes qu'ils ont envie. On n'est pas obligé d'aller voir tout le monde. On peut aussi aller voir personne si on a envie.
Donc on est à sa place, mais des fois on se déplace, des fois on est disponible, des fois on l'est pas.
Voilà.
C'est ça?
C'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment un jeu incroyable parce que chacun nous renvoie quelque chose qu'il a perçu de nous dans cette dynamique de projet qu'on a vécu ensemble. Ouais, c'est un effet de miroir. Alors des fois. Des fois, on sent ce que dit la personne qui lui ressemble personnellement. Des fois, ça nous renvoie vraiment à nous. Quoi qu'il arrive, en général, ça produit des choses assez intenses. Et il peut arriver qu'on ait une ou deux larmes d'émotion, voire plus. Mais quoi qu'il arrive, c'est très fort, très, très régénérateur. Et ça fait remonter le niveau d'énergie énormément. C'est de la reconnexion. Ouh. Voilà.
C'est joli pour terminer. Truc, on va se reconnecter, récupérer de l'énergie. Bon, on n'est pas obligé d'être dans la reconnexion, on peut aussi juste aller chercher des feedbacks, des retours d'informations pour le prochain projet.
Du feedback,
Ok.
oui. Bah, c'est ce qu'on retrouve assez régulièrement quand on fait des formations ou même des fois quand on va dans des supermarchés, des endroits. on nous pose des questions pour savoir est-ce qu'on est satisfait des services, de l'ambiance, de ci, de ça. C'est une manière de prendre, de récupérer de l'information pour pouvoir ajuster progressivement la manière de faire et essayer de répondre à un besoin, soit personnel, soit de l'environnement.
D'accord. Donc c'est une manière de consacrer l'énergie à ce qui a été.
Exactement. De prendre conscience de ce qui a été. Parce qu'assez souvent, on arrive dans l'étape du faire et puis on s'arrête là. Et puis ben, ce qui a été démontré un petit peu, c'est que c'est quand on s'arrête au faire tout court, les projets ne tiennent pas dans la durée. En général, au bout de 3 ans, les projets s'effondrent. Alors qu'en célébrant, en prenant autant de temps à la célébration qu'on a pris de temps dans l'action, eh ben, ça permet de pérenniser des projets.
Pour avoir un retour d'énergie à réinvestir plus loin.
Exactement.
Okay, d'accord. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter sur ce sujet-là, ou le sujet en général ? Quelle serait la question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais voulu que je te pose ?
Non, je crois que c'est très bien comme ça. Ça me fait plaisir de faire le tour de toutes ces étapes un peu de projet avec toi, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Moi voilà, ça fait quoi maintenant 5 ans que je pratique, et puis je suis toujours autant à fond avec ça, autant pour ma vie de famille que pour soutenir des projets d'autres personnes, que pour monter mes propres projets. C'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer.
Ouais, et puis a priori c'est pas terminé. Et puis si on veut te contacter, vous pouvez aller chercher Yvan Schellenberger. Yvan, je te remercie beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui et d'avoir passé tout ce temps avec nous. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée, c'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Ciao.
C'est la fin de ce numéro de Acte 2, une balado-diffusion de l'association du passage à l'acte par Flo M. Sève. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avance de partager ces sons avec les gens qui vous entourent, de les faire circuler largement, car nous refusons l'industrie de la publicité, nous préférons, et de loin, la réputation que vous nous faites. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous commander des formations, des conférences ou des animations, nous faire un don et bien sûr guetter nos prochaines publications. Rendez-vous très bientôt sur apsala.org, onglet podcast, texte ou formation.